J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël et que vous n'êtes pas tous maladous, non, ça va? Apparemment la famille de Vogel, si. Non, ça va. Il n'y a que le père et la fille. Ok. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 3 et on va lire du verset 7 au verset 18. Et comme on est en fin d'année, je pense que auprès de Dieu est un bon thème pour finir et redémarrer. Mais on va commencer par lire le texte. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. » On se rappelle, cette année, on essaye de se centrer, de développer un petit peu plus sur la gloire de Dieu. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. On peut passer à la suite. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je voulais conclure cette année 2025 avec un texte qui nous parle à la fois de l'Exode, puisqu'on est dans le livre de l'Exode, et de la gloire de Dieu. Et je crois que c'est un bon texte pour ça. 13 fois, le mot « gloire » y est mentionné, en seulement 11 versets. Et on voit qu'il y a un comparatif fort entre l'époque de Moïse, donc celle de l'Exode, et puis celle de Jésus. Ce texte commence en présentant combien la gloire de Dieu qui a été déposé sur Moïse, était intense, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Donc ce n'était pas rien ce qui se passait à ce moment-là, c'était intense, c'était puissant. Et quelle a été la réaction de Moïse ? C'est de mettre un voile sur son visage. Et quelque part, Moïse dissimulait la gloire de Dieu. Et en faisant cela, il rendait et la gloire et Dieu lui-même symboliquement inaccessibles. Malgré cette intensité présente à l'époque de Moïse, on peut mettre la slide d'après, le texte nous dit « Cette gloire fut passagère » au verset 7. Elle est appelée Le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Versets 7 et 8. Et au verset 10, il nous est dit, à cause d'une autre gloire, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Alors, on peut s'interroger ce matin en se disant, mais où est-ce qu'il veut nous amener ? C'est quoi le rapport avec le titre ? Par Christ auprès de Dieu. Eh bien, on y vient, progressivement. Dieu nous parle d'une gloire intense qui a été, et cette gloire, elle était bonne. Mais cette gloire, elle a laissé place à une autre gloire. Et ce texte, du coup, nous parle d'une gloire passagère qui a laissé place à une gloire, Paul dit, de beaucoup supérieure. Une gloire permanente cette fois-ci. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une gloire éternelle, versets 9 à 11. Cette gloire, Paul va l'appeler le ministère de l'Esprit et le ministère de la justice. Parce que c'est en Jésus que nous avons la justice. Il précisera que cette gloire, elle est accessible par un seul chemin, d'une seule manière. Et bien sûr, au verset 14 et 15, c'est en Christ. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout ce qui se passe dans le livre de l'Exode, Dieu et sa gloire demeurent inaccessibles pour l'ensemble du peuple. Moïse est quelque part une exception. Pourquoi ? Parce qu'il servait de prophétie. Il servait d'annonce de celui qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On peut lire en Exode 24, versets 1 et 2, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Ce peuple de l'Exode ne pouvait que contempler Dieu et sa gloire de loin. Ce qui a eu pour conséquence que ça ne les a pas vraiment transformés. Pourquoi c'est bon de se rappeler cela ? Eh bien, c'est pour nous pousser à la réflexion et à se dire que on doit prendre la mesure du privilège que nous avons en tant que disciples de Christ. Tout cela nous pousse à cela. Quel privilège nous avons en Christ de vivre les temps aujourd'hui. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Waouh. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. L'accès à Dieu et à sa gloire a été ouvert. Amen. Est-ce qu'on le réalise ? L'accès à Dieu et à sa gloire a été ouvert. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Et je voudrais nous pousser ce matin à nous en rendre compte. Quel temps merveilleux nous vivons. En Jésus, Éphésiens 2, 18, on peut afficher. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 3, 12, en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En Jésus, approchons-nous, Hébreux 4, 16, donc avec une assurance, avec assurance, pardon, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Waouh! Et on peut passer la slide d'après. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Waouh! Par la route nouvelle et vivante qu'il, bien sûr il est parlé de Jésus, a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors je voudrais nous interroger en cette fin d'année, et moi le premier, je veux m'interroger. Pourquoi restons-nous si souvent loin de la présence de Dieu ? Je nous pose des vraies questions ce matin. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous approcher régulièrement de Dieu et de sa gloire ? Pourquoi passons-nous une grande partie de notre temps sans venir à lui ? Pourquoi agissons-nous comme ça ? On vient de le lire. Avec un cœur sincère, si je réponds à ces questions, quand tu as 15 minutes devant toi de libre, est-ce que ton premier réflexe, c'est « je vais aller dans la présence de Dieu » ou est-ce que tu sors ton téléphone pour scroller ? Je suis sûr que les jeunes filles, elles ne le font pas, ça. Elles n'ont pas de portable. Alors que nous parcourons le livre de l'Exode, observons, et on va continuer en janvier, observons combien il est difficile au peuple de s'approcher de Dieu et d'être transformé par sa gloire. Le peuple qui est sorti d'Égypte, malgré les miracles extraordinaires qu'ils ont vécus, malgré la colonne de feu et la nuée, malgré la manne, l'écaille, presque tous sont morts dans le désert. Presque personne n'a été transformé par l'accès à la présence de Dieu et à sa gloire. Et sommes-nous dans notre manière de vivre identiques à ce peuple du désert ? C'est une bonne question. Alors que l'accès est ouvert, est-ce que nous vivons comme s'il était fermé ? Exode 20, versets 18 et 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Est-ce que quand nous avons une opportunité de passer du temps avec Dieu, nous répondons « Oh non, je suis trop occupé » ou « Non, mais ça c'est le job des anciens, des diacres, des responsables, etc. » Ou encore, ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui, bien sûr on va répondre « Oui, oui, je vais passer du temps avec Dieu. » Et puis, tu passes tout ton temps sur ton téléphone, devant la télé ou dans un quelconque loisir. Alors, je veux nous secouer un tout petit peu en cette fin d'année, mais pour un but précis, c'est que l'année 2026 durant cette année, nous voyons un réel progrès ensemble dans le temps consacré à la présence de Dieu. À moins que vous soyez satisfait déjà, je pense que nous pouvons progresser là-dedans. Mon cœur est qu'ensemble, nous trouvions de plus en plus de temps à contempler la beauté et la bonté de Dieu. Vous êtes d'accord pour ça? Prendre de plus en plus de temps à contempler sa beauté et sa bonté. Et j'arrive au cœur du message de ce matin. Les derniers versets, versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, n'a plus le voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. On continue avec quelques questions. C'est la fin d'année. Vous m'autorisez? En quoi ta vie est-elle et continue-t-elle d'être transformée? Peut-être tu as une semaine de conversion, peut-être tu as 50 ans de conversion derrière toi. En quoi ta vie continue-t-elle d'être transformée? Y a-t-il une différence? Et là, tu réponds dans ton cœur, bien sûr. Y a-t-il une différence entre ta manière de vivre et celle de tes collègues de boulot ou de tes copains de classe? Je ne réponds pas, hein, c'est vous qui répondez dans votre cœur. En quoi participes-tu au progrès de l'Évangile autour de toi? En d'autres termes, passes-tu assez de temps auprès de Dieu afin d'être transformé? Pour nous aider, je voudrais qu'on regarde un peu un des aspects d'hommes qui ont participé à transformer ce qui était autour d'eux et amener ce qu'on appelle une forme de réveil. On va parler d'un certain monsieur qui s'appelle Martin Luther, 15e siècle. Luther passait 3 à 4 heures par jour à prier. Allô? Luther passait 3 à 4 heures par jour à prier. Non, ça c'est la totalité. Puis, une fois qu'il avait prié, il étudiait la Bible. Puis, régulièrement, il lisait de la théologie, il lisait les pères de l'Église. Puis, enfin, il passait du temps dans le silence, à méditer ce qu'il avait lu et à se confesser. Voilà pourquoi il passait 6 à 8 heures par jour à se consacrer à Dieu. 6 à 8 heures. Pardon. Et parfois davantage. Luther dira, si jamais un moine pouvait gagner le ciel par la vie monastique, c'est-à-dire par la consécration, j'y serais entré. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Hein. Il jeûnait, veillait, priait longuement, parfois au point d'en tomber malade. Je me sens loin de Luther. Il est arrivé qu'il négligeait même de dormir et oubliait de manger. C'est quand la dernière fois que c'était arrivé? Parce qu'il était absorbé par la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, on pourrait rétorquer, oui, mais à l'époque, ils avaient le temps. Nous, on vit à 200 à l'heure. On n'a pas le temps. Voici ce que Luther nous répondrait. J'ai tant à faire aujourd'hui. Hein, ça, on... Mais je ne suis pas sûr qu'on ait la même conclusion. Que je passerai les 3 premières heures à prier. J'ai tant à faire aujourd'hui que je passerai les 3 premières heures à prier. Je peux vous dire que ça me secoue. Dieu a utilisé Luther pour transformer et ramener les croyants vers une foi plus vivante. Et il y a d'autres personnes qui ont été transformées et qui ont transformé la vie autour d'eux par la prière, par la lecture de la Bible, par la louange ou tout simplement par la contemplation. Le réveil des Moraves avec Nicolas von Zinzendorf. Vous le connaissez, lui ? Comment ça a commencé ? Eh bien, par des veillées de prière et de repentance qui ont débuté le 13 août 1727. À la suite de ça, s'est mis en place une chaîne de prière 24 heures sur 24. Waouh ! Qui est motivé ? Et alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça a duré 2-3 jours. Enfin, presque. Ça a duré plus de 100 ans. Allô ? Zinzendorf disait « Le Saint-Esprit se répandit sur nous d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. » Être auprès de Dieu. On passe à la suite. Le réveil méthodiste de John Wesley. John Wesley met en place des réunions de prière régulières en petits groupes et en plus une discipline spirituelle rigoureuse, des temps de jeûne, des temps de prière, des temps d'étude de la Bible. Pendant ces réunions, des gens comme un certain Aldersgate, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Aldersgate, pardon, dit « Mon cœur fut étrangement réchauffé pendant ces réunions. » Les historiens attribuent à cet événement une transformation morale de toute l'Angleterre. Wesley disait « Dieu ne fait rien sinon en réponse à la prière. » Et à la suite de ce mouvement, des milliers, des dizaines de milliers de conversions ont eu lieu en Angleterre. Est-ce que vous avez entendu parler du concert de prière ? En Écosse et aux États-Unis et aussi en Angleterre. C'est né d'un appel international à prier ensemble régulièrement. Cet événement apportera des conversions massives dans ces 3 pays et des réformes sociales. À la suite de ce concert de prière, il y a un mouvement de ce qu'on va appeler le Grand Réveil, avec notamment un monsieur qui s'appelle Jonathan Edwards. Et là encore, des conversions massives ont lieu. Et Jonathan Edwards dira « Quand Dieu a un grand dessein, il incline d'abord son peuple à prier. » On peut passer. Le réveil de Fulton Street à New York. Ça a débuté avec un certain Jeremiah Lanfier. Je sais pas, les anglophones, aidez-moi. Je sais pas comment on prononce. C'était un simple homme qui organise une réunion de prière entre midi et deux pendant la pause repas. Et il commence avec 6 personnes à New York. En quelques mois, des milliers de réunions de prière apparaissent dans toute la ville. Et on estime à environ 1 million de conversions pendant ce moment de réveil. on peut passer le réveil au pays de Galles, qui a débuté, donc là c'était début du siècle dernier, avec un certain Evan Roberts, qui passe de longues nuits de prière solitaire. Encore une fois, un simple homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient passer du temps auprès de Dieu. Puis il met en place une réunion de prière avec comme leitmotiv « Plier sous la main puissante de Dieu ». Des réunions de prière commencent à apparaître dans tout le pays. Et une particularité de ce réveil-là, c'est qu'il y a des chants. Ça chante de partout, dans tout le pays. Evan Roberts disait souvent « Laissez l'esprit conduire la réunion ». Et les réunions pouvaient durer de 3 à 6 heures, parfois toute la nuit. La conséquence de cela, c'est que les bars, à l'époque on appelait ça les tavernes, ferment. La criminalité chute dans tout le pays. Et même les chevaux des mines ne comprennent plus les ordres. Pourquoi? Parce que les gens arrêtaient de jurer. Le dernier exemple pour ce matin, c'est Azusa Street, qui est plus connu, avec un certain William J. Seymour, qui met en place, pareil, de simples réunions. Très vite, le nombre de personnes augmente et on est obligé de louer un ancien entrepôt au 312 Azusa Street. Des personnes de toutes races et de tous niveaux sociaux viennent. Et ce qui était particulièrement remarquable à cette époque-là aux États-Unis, à cause de la ségrégation raciale. Des chrétiens de différentes dénominations viennent voir et bien sûr des curieux qui se convertissent. Le réveil durera plusieurs années, 1906 jusqu'à environ 1915, et c'est aujourd'hui ce qu'on considère comme le point de départ du pentecôtisme moderne. C'était juste quelques exemples pour qu'on réalise que ça part souvent de pas grand-chose, de quelqu'un qui passe des nuits dans la prière, de petits groupes qui, à la pause repas, eh bien, prennent quelques minutes pour prier. Vous voyez, ça peut être simple en fait. Le secret, il est juste d'en passer plus de temps dans la présence de Dieu, afin de mieux comprendre son amour et de laisser Dieu toucher nos cœurs en profondeur. Nous aimons naturellement passer du temps avec qui? C'est ça. Elle a mis la main sur son chéri. Avec ceux qui nous aiment. On aime passer du temps avec ceux qui nous aiment. Notre famille, nos amis. C'est pourquoi je crois que plus nous expérimentons l'amour de Dieu, plus nous voudrons passer du temps avec lui. Amen. Plus tu vas expérimenter combien Dieu t'aime, plus tu vas désirer passer du temps avec lui. Alors comment démarrer ou redémarrer une relation d'amour intense avec Dieu? Eh bien, on va reprendre les versets par la contemplation de son amour et par la prière. Alors, on peut se poser la question, tu nous dis qu'il faut contempler Dieu, c'est gentil, mais comment est-ce qu'on peut contempler quelqu'un qu'on ne peut pas voir? Une bonne question, ça. Eh bien, je voudrais finir le message en parlant de la théorie ou théologie des trois yeux. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors, je vous rassure, je ne pars pas dans l'hindouisme ou je ne sais pas où. Mais je fais référence à un certain monsieur qui s'appelle Bonaventure. Il a un joli nom, lui. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un théologien du Moyen Âge. Souvent, on dit qu'au Moyen Âge, il ne s'est pas passé grand-chose. On appelle ça l'obscurantisme. Et lui, il a... alors c'est pas lui qui l'a initié, mais c'est lui qui l'a mis en avant. Et en fait, on nous explique qu'il existe trois manières de regarder, de contempler Dieu et sa gloire. D'où les trois yeux. La première, c'est avec les yeux physiques qui regardent à ce qui est visible. Prenons du temps pour contempler la nature, les montagnes, les plantes, les oiseaux, etc. En d'autres termes, la création de Dieu. Romains 1, verset 20 nous dit: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Contempler Dieu, c'est se balader dans la nature. Ça va? C'est à la portée de tous? Contempler Dieu, c'est se balader en laissant son téléphone à la maison. C'est toujours à la portée de tous? Ah, il y a moins de... il y a moins d'enthousiasme. Et pourtant, combien c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, on peut prier aussi et rechercher des évidences physiques de la gloire de Dieu. Prie pour les malades autour de toi. Récemment, avec ma chérie, a eu, je pense, le Covid. Récemment, c'est il y a 3 semaines. Et elle a perdu le goût. Et puis, on va régulièrement manger ensemble le vendredi à midi et on se retrouve à Carré Sud, là-bas. Et elle était un peu déçue parce qu'elle allait manger du carton. Quand on perd le goût, elle avait perdu le goût. Je ne sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là où on s'est regardé, puis on a dit, ben, on va prier. On va prier pour que tu retrouves le goût. Et on était à It Salad, là, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Et avant, juste devant la caisse, eh bien, j'impose les mains à mon épouse, je prie pour elle. Et on mange, et elle a retrouvé le goût. Elle a mangé du bon saumon. Au parcours Alpha, on a eu aussi un bon moment où on a vu Dieu agir dans la guérison. Demande à Dieu des interventions concrètes dans ta vie de tous les jours. Pourquoi? Pour que tu puisses quelque part les écrire dans ta mémoire ou sur un cahier et les repasser devant tes yeux, pour contempler avec tes yeux ce que Dieu a fait. Amen. Donc, les yeux physiques qui voient le monde qui nous entoure. La deuxième manière, le deuxième temps que l'on peut passer avec Dieu, c'est les contempler avec les yeux de la conscience ou de la raison. Ces yeux-là, ils essaient d'analyser, ils essaient de comprendre. Passer du temps à méditer, à réfléchir sur Dieu. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ce temps-là? Lire la Bible et se poser des questions. Recherche des explications, contemple la beauté et la complexité de Dieu. Dieu, ce n'est pas simple au fait. C'est complexe. Ça fait combien de temps que tu n'as pas passé de temps à réfléchir à la grandeur de Dieu? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça veut dire quoi? Combien Dieu est bon? Tout ce qu'il fait est motivé par son amour, sa bonté. Psaume 147 nous dit: Son intelligence n'a point de limite. ça veut dire quoi pour ma vie? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, Ésaïe 40. Comment c'est possible? Il habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6. Elle est où cette lumière inaccessible? Prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles nous pouvons méditer et contempler la gloire de Dieu. Les richesses incompréhensibles de Christ. C'est quoi ces richesses? Ah, mais je ne peux pas les comprendre. Nous le verrons face à face. Ça va ressembler à quoi? Tant de choses à méditer dans notre cœur. Amen. Tout ça, c'est pour nous encourager à passer du temps auprès de Dieu. Les yeux physiques, les yeux de la raison et enfin les yeux du cœur qui permettent une expérimentation des profondeurs de notre être. Ces yeux-là vont chercher l'amour. Ils nous plongent dans les profondeurs de la gloire de Dieu. Cette contemplation nous permet de vivre une expérience de la présence de Dieu, de son amour, de sa gloire. Et qu'est-ce que ça va produire en nous? Eh bien, inévitablement, une transformation radicale de notre être. Nous sommes transformés, Tim Keller disait, nous sommes transformés parce que nous vivons une expérience émotionnelle intense dans notre cœur. Et ça passe aussi par le temps que nous passons avec Dieu. C'est ce que, dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, est appelé la métamorphose. D'accord ? Nous sommes transformés en son image. Le mot grec, c'est métamorphoia. La transformation est telle que la chenille devenue chrysalide ressort en papillon. C'est de cette transformation-là dont il nous est parlé. Ce n'est pas une transformation de surface, un petit truc en plus dans ta vie. Contempler la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça nous change pour toujours, les amis. Ça nous change vraiment, en profondeur. Et ce monsieur Bonaventure écrira, « On ne parvient pas à la contemplation par la spéculation, mais par l'amour. » Passer du temps dans l'amour de Dieu. Vivre une expérience profonde, sincère, où nous ouvrons les profondeurs de notre âme. C'est ça la dernière contemplation. Ce n'est pas celle où tu donnes la surface de ta peau à Dieu. C'est celle où tu ouvres en grand tes tripes, tes entrailles, pour avoir utilisé un mot plus biblique, à l'endroit même où nous avons été blessés, à l'endroit même où nous enfouissons les choses que nous voulons garder secrètes, là où nous dissimulons notre péché. Si nous ouvrons cette partie de nous-mêmes à Dieu, à son amour, ben, inévitablement, on va vivre une expérience intense, à la fois émotionnelle, à la fois physique et à la fois spirituelle. Et cette expérience ne nous laissera pas comme nous sommes. Elle va nous métamorphoser pour que nous puissions mieux ressembler à Jésus, notre bien-aimé Sauveur. C'est à cet endroit, lors de cette rencontre, que notre peine sera consolée. C'est là que notre douleur partira. C'est là que nos angoisses se changent en paix. C'est là que notre deuil peut se changer en cri de joie. Du coup, j'ai envie de nous encourager ce matin. Courons contempler Dieu. Peut-être demander à l'équipe de louange de revenir, et je vais juste finir par une dernière chose, et puis on va passer du temps dans la présence de Dieu. Parfois, avec tout l'enthousiasme avec lequel on va repartir ce matin, hein, je vous ai encouragé, j'espère, avec toutes les bonnes décisions qu'on va prendre pour cette nouvelle année 2026, ça reste un défi de développer le temps passé auprès de Dieu. Et je voudrais nous encourager à toujours continuer de progresser. D'accord ? Et ça, on le fait ensemble. Humainement, la prière n'est pas naturelle. Ne penser qu'à Dieu pendant plus d'une minute, parfois ça relève du miracle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on commence à prier et au bout de 20 secondes, vous pensez à la facture que vous devez payer, au repas que vous devez préparer, aux courses que vous devez faire, aux collègues de boulot que vous allez croiser, etc. Bon, peut-être qu'il n'y a que moi qui fais ça, mais les pensées courent. Et en moins d'une minute, notre prière se transforme en réflexion pour notre journée. Et c'est humain, d'accord ? Vous n'êtes pas anormal si vous faites ça, vous êtes juste humain. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on doit relever ce défi ensemble. Mon épouse m'a fait un joli cadeau jeudi dernier. Vous savez c'est quoi ? Un puzzle. Et je la bénis d'avoir fait ça. Pourquoi ? Bon, elle sait que j'aime ça. Ça va développer chez moi quoi ? L'attention, la concentration. Passer du temps seul, peut-être on a commencé à deux, dans le silence. Vous savez, tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Pourquoi je prends cet exemple ? C'est parce qu'on a besoin de mettre en place des béquilles, des outils pour nous aider à grandir dans la prière et la contemplation. Et dans l'Église, il y en a des béquilles, il y a des puzzles à faire. D'accord ? Il y a les parcours autour de la Bible qui vont redémarrer. Je peux nous encourager à une plus grande assiduité aussi à nos rencontres. Le dimanche, les réunions de louanges, les réunions de prière sur Zoom. On était en moyenne 10-12. On est loin des 170 que l'on est dans l'Église, mais les groupes de vie, les groupes de croissance, etc. Il y a plein d'opportunités pour se rencontrer et passer du temps avec Dieu. Utilisons tout ça pour passer un maximum de temps avec lui, pour l'entendre nous parler, pour l'entendre parler à nos frères et sœurs, pour contempler sa gloire et voir nos vies transformées et la vie de ceux qui nous entourent être transformée. Ce que je nous propose maintenant, à 10 minutes, c'est de passer du temps. Peut-être on va demander à la louange de nous accompagner En suivant peut-être cette progression des trois yeux, on va passer quelques minutes en prière, mais avec nos yeux humains.